Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et cet après-midi, nous allons donner la parole à des étudiantes et des étudiants de l'UTC pour présenter les travaux menés dans le cadre du cours WE01 à l'UTC, qui aborde les technologies du web, à la fois sous les angles théoriques, comment ça fonctionne, sous les angles pratiques, comment est-ce qu'on crée un site web, comment est-ce qu'on l'héberge, mais aussi sous les angles culturels, histoire du web, de l'informatique, on parle aussi d'éthique. Et tout ce genre de sujets intéressants et d'actualité. Alors les étudiantes et étudiants en semestre ont travaillé en groupe sur un sujet qu'ils ont mis en ligne sur un site web et ils ont notamment produit des articles scientifiques, des fiches de lecture, des interviews et pour finir, eh bien, ils présentent aujourd'hui une synthèse de ce travail à la radio sur Graphite. Alors pour commencer cet après-midi d'émission, j'ai le plaisir d'être avec Garance Delabrosse, Émeric Forget, Théo Demar et Lucas Rougeron. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et du coup, Théo, je te laisse introduire le sujet dont vous allez parler cet après-midi.
Merci Quentin. Donc, bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Donc, pour nous présenter rapidement, ce semestre, on a travaillé sur l'anonymat et le chiffrement. Et l'intervention de cet après-midi, elle porte plus particulièrement sur l'anonymat et la cybercriminalité. Donc, dans un premier temps, on vous rappellera les différents outils qui permettent différents degrés d'anonymat. Et ensuite, on essaiera d'apporter notre réflexion sur la place de l'anonymat face à la cybercriminalité. Donc je vais laisser Garance commencer.
Bonjour, donc je suis Garance et je vais vous parler de l'anonymat et du côté éthique de l'anonymat sur Internet. Donc Internet a apporté de nouveaux modes d'interaction. Les utilisateurs d'Internet communiquent virtuellement et donc à distance. Ce nouveau type de communication pose de nouvelles questions. Peut-on communiquer de manière anonyme ? Je vais commencer par donner quelques définitions. Donc, dans un premier temps, je vais définir Internet. Internet est un ensemble de réseaux mondiaux d'ordinateurs interconnectés. Il permet à des ordinateurs et des serveurs de communiquer. Ceci se fait à l'aide d'un protocole appelé protocole IP pour Internet Protocol, commun à tous les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'un protocole IP ? La communication sur Internet peut être expliquée grâce à un exemple bien connu, la communication par la poste. Chaque ordinateur a une adresse unique, appelée adresse IP, et suit un protocole particulier pour communiquer sur Internet, le protocole IP. Lorsque l'ordinateur A communique un message à un ordinateur B, il le délivre à un serveur qui s'occupera d'acheminer son message jusqu'à l'adresse IP de l'ordinateur B. Ainsi, chaque ordinateur connecté au réseau, qui est Internet, possède une adresse IP qui l'identifie et lui permet de recevoir et envoyer des données. Théoriquement, chaque ordinateur est donc identifiable sur Internet. Je vais également définir les notions de serveur et de client. Dans le cadre d'une communication sur un réseau d'ordinateurs tel que le web, les ordinateurs demandant des requêtes, comme envoyer des messages ou accéder à un site web, sont appelés clients. Lorsque vous faites une recherche sur Wikipédia, par exemple, vous faites une requête pour accéder au site web, votre ordinateur est donc le client. Cette requête est reçue et gérée par un autre ordinateur, appelé serveur, qui servira votre demande et vous permettra d'accéder au site web Wikipédia. Alors comment peut-on être anonyme sur Internet ? Il existe différents outils et méthodes pour être plus ou moins anonyme sur Internet. L'anonymat, d'un point de vue social, c'est-à-dire interagir et communiquer sur Internet de manière anonyme, est assuré par des pseudonymes. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit sur un forum ou un réseau social, son identité n'est pas vérifiée. Chacun est donc libre de s'exprimer anonymement. Ce type d'anonymat est accessible et simple. Cependant, cet anonymat n'est pas absolu. Comme je l'ai expliqué plus tôt, chaque machine possède une adresse IP pour utiliser Internet. Ceci implique que même en communiquant sous pseudonyme, cela ne permet pas de cacher l'adresse IP de l'ordinateur utilisé et donc ne cache pas l'identité de l'utilisateur. Il existe plusieurs outils pour permettre à un utilisateur d'être plus anonyme que simplement utiliser un pseudo, comme le VPN. Donc qu'est-ce que le VPN ? C'est pour Virtual Private Network et ça permet de changer l'adresse IP d'un utilisateur et donc de cacher sa provenance et son parcours sur le web pour ainsi masquer son identité. Le VPN est une des meilleures protections permettant de dissimuler une adresse IP. Il permet de brouiller les échanges et de protéger l'anonymat de celui qui l'utilise. Pour garantir plus d'anonymat, le VPN va aussi chiffrer les données. Il va transformer un message clair avec une clé de chiffrement en un message chiffré, donc illisible. Quiconque n'étant pas destinataire et voudra lire le message devra le déchiffrer, ce qui est techniquement difficile. Un autre moyen d'assurer l'anonymat sur Internet sont les serveurs proxy. Donc un proxy est un serveur, donc un ordinateur, qui sert d'intermédiaire entre un client et un destinataire. Comme le VPN, il permet donc de cacher l'origine de l'utilisateur et participe à sa confidentialité. Cependant, contrairement au VPN, le proxy ne chiffre pas les données. L'anonymat, garanti par un serveur proxy, a donc des limites. Grâce à des moyens techniques suffisants, il est théoriquement possible de révéler l'identité de n'importe qui sur Internet, même si ce dernier la masque à l'aide des moyens comme ceux évoqués plus tôt. Mais ces moyens techniques ne sont pas accessibles à tous. Ils peuvent demander non seulement des compétences techniques importantes, mais aussi des ordinateurs puissants et rapides. Nous allons désormais étudier l'aspect éthique de l'anonymat sur Internet. Nous allons écouter un extrait audio de Brut, intitulé « Faut-il interdire l'anonymat sur Internet ?». Dans cet extrait, Laetitia Avia, une députée de La République En Marche, et Jean-Baptiste Souffron, un avocat spécialiste du numérique, débattent sur l'impact de l'anonymat sur la liberté d'expression.
Sous pseudo, eh bien, on pense être une autre personne et on se permet tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et donc, quelqu'un qui peut avoir de grandes responsabilités peut considérer que, parce qu'il décide de s'appeler patate masquée sur Twitter, eh bien, il va pouvoir dire ce qu'il veut, insulter, harceler. Et puis, il y a l'effet meute. En fait, il y a cette ambiance générale sur laquelle ce n'est pas la vraie vie sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est faux. C'est la vraie vie, les mêmes responsabilités pour tout un chacun.
Les exemples sont très nombreux, ne serait-ce que par rapport à votre employeur, par rapport à votre famille, par rapport à tout un tas de gens qui vont vous juger sur ce que vous dites. Et bien, si on vous juge à l'avance sur ce que vous dites, ça vous empêche nécessairement de vous exprimer. Vous avez besoin de ce petit espace de liberté parce que la liberté de conscience, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a inventé le secret de l'isolement.
Donc cet audio nous permet de comprendre quelques impacts de l'anonymat sur Internet. L'anonymat sur Internet a bien sûr des avantages. Il favorise la liberté de s'exprimer sans exposer son nom par exemple, comme évoqué dans l'audio. Cela permet à chacun de s'exprimer sans compromettre son travail ou sans être jugé par ses proches. C'est aussi une liberté d'accès. Certains gouvernements interdisent l'accès à certains sites web ou réseaux sociaux. L'anonymat sur Internet peut permettre d'accéder librement à toutes les ressources disponibles sur Internet, même si cela est interdit à l'utilisateur dans son pays. Mais l'anonymat est aussi un risque. Il protège les criminels, tels que des trafiquants d'armes ou de drogue. De plus, les utilisateurs cachés derrière un pseudonyme, sur les réseaux sociaux par exemple, se permettent d'être plus violents et extrêmes dans leurs propos, ce qu'ils ne se permettraient pas si leur identité était connue. La liberté d'expression est aussi un risque, elle augmente le risque de bourrage de crâne et de propagande. N'importe qui peut poster n'importe quel contenu sur Internet et donc influencer d'autres utilisateurs dans des idées extrémistes ou haineuses. Des communautés se créent, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. L'anonymat est donc une problématique compliquée qui pose un dilemme entre risque et liberté. Bien qu'il existe beaucoup de méthodes pour être anonyme sur Internet, il est impossible de l'être complètement. Avec des compétences techniques suffisantes et des machines adaptées, il sera théoriquement toujours possible de retracer quelqu'un sur Internet.
Merci beaucoup, Garance, pour ton intervention. Alors, quelques questions qui arrivent. Je suis vraiment désolé pour le prénom, je ne sais jamais comment on le prononce, pardonnez-moi, Hyssen, je pense, qui demande dans quelles circonstances est-ce qu'on peut lever l'anonymat sur Internet. Du coup, j'imagine à la fois peut-être juridique et technique.
Donc comme je l'ai dit plus tôt, l'anonymat n'est pas absolu sur Internet et il peut être levé dans des circonstances lorsqu'un crime vraiment grave est commis. Par exemple, des gouvernements ou des services secrets vont être amenés à lever l'anonymat de quelqu'un sur Internet quand il a commis un crime important qui devrait vraiment être puni. Donc ça peut être le cas d'un trafic d'armes important par exemple ou d'un harcèlement très impactant. Ça peut être aussi dans le cas d'espionnage de gouvernements chez d'autres gouvernements qui souhaitent donc récupérer des informations, etc., qui est donc le anonymat.
Merci beaucoup. Et alors du coup, ça rejoint un peu la question de Stéphane qui demande est-ce que le VPN est une garantie complète d'anonymat, c'est-à-dire est-ce que par exemple des services étatiques avec des moyens techniques importants à leur disposition peuvent lever l'anonymat de n'importe quel VPN à ta connaissance?
Oui, donc le VPN, même s'il permet de très bien camoufler l'adresse IP de l'utilisateur, il ne fait que la camoufler et retracer des chemins de communication sur Internet. Donc il est toujours possible, mais très compliqué, de retracer l'adresse IP de l'utilisateur et de retrouver donc de lever l'anonymat. Donc c'est plutôt efficace pour garantir l'anonymat d'un utilisateur, mais ce n'est pas absolu. Et ça, avec des moyens techniques importants, il sera toujours possible, de, malgré le fait que l'utilisateur utilise un VPN, de lever son anonymat.
Ok, d'ailleurs c'est utile de rappeler que beaucoup de VPN sont opérés par des entreprises à but commercial, donc il faut aussi bien choisir son VPN.
Oui, les VPN aussi gardent les données de leurs clients, donc forcément eux sont capables de retracer leurs clients aussi, même si parfois ils disent le contraire, certains gardent les données, donc c'est pas un anonymat absolu, c'est sûr.
Et alors du coup, pour conclure, est-ce que, à ta connaissance, il existe des systèmes qui permettent d'avoir techniquement un anonymat absolu pour, par exemple, on pense, vous en reparlerez peut-être plus tard, aux lanceurs d'alerte, aux gens qui ont vraiment besoin de se protéger.
Je sais qu'il existe Tor qui peut permettre un grand anonymat aussi. Je ne suis pas sûre qu'il soit complètement absolu, mais à ma connaissance, il est très très efficace et...
Ok, merci beaucoup pour les réponses. On vous renvoie à l'émission de Picassoft sur podcast.picassoft.net qui parle de Tor. Et puis on va enchaîner maintenant avec Aymeric. Je crois que tu vas nous parler de l'anonymat et des réseaux sociaux, c'est ça ?
Exactement, on va essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet qui va nous concerner tous. Un sujet qui, à chaque fois dans nos communications, on va se retrouver à avoir des questions d'éthique et des questions d'anonymat. Alors pour comprendre, Internet c'est un monde énorme. 96% des Français entre 16 et 64 ans possèdent à ce jour un smartphone. En 2020, on a 4,79 milliards de personnes qui ont une connexion Internet dans le monde. Et en France, c'est 53,8 millions d'internautes, c'est 85% de la population. Donc ça va soulever des débats absolument énormes, des débats presque politiques. Mais premièrement, comme l'a dit Garance, on peut être anonyme de deux manières. On va être anonyme aux yeux d'autrui, ça veut dire sous un pseudonyme, ça veut dire caché auprès des autres, qu'on est un petit personnage sur Internet. Mais aussi, est-ce qu'on peut être vraiment anonyme aux yeux d'un réseau ? Parce que finalement, le réseau, c'est l'entité globale, c'est celle qui va regarder qui on est. Premièrement, tous les jours, quand on va utiliser un site Internet, par exemple, on va s'authentifier avec un numéro de mobile. Le numéro de mobile, malheureusement, c'est un identifiant pur, c'est-à-dire qu'on en a un. Un opérateur mobile, par exemple, va savoir exactement qui on est, puisqu'il a énormément d'informations sur nous. Autrement, on va souvent essayer de se connecter, par exemple, avec son adresse Google. Google, il va nous voir comme une personne à part entière qui, par exemple, peut avoir un historique de localisation, un historique de consommation, où l'on va, ce que l'on fait, ce que l'on étudie. Qu'est-ce qui va nous protéger ? L'Europe, par exemple, a mis en 2016 le règlement général sur la protection des données, mais finalement, ça ne va pas nous permettre de nous protéger tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'au début, Internet, c'est, vous l'avez peut-être connu, vous avez peut-être été plus jeune que nous, c'est MySpace ou Skyblog, où en fait, finalement, il n'y avait pas vraiment d'utilité à ce que les réseaux cherchent à comprendre qui l'on est vraiment. C'était vraiment un moyen de s'émanciper. Pourtant, on va voir que les entreprises, elles vont trouver un aspect économique. Les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour obtenir des déductions et des prédictions détaillées sur les utilisateurs. Ainsi, par exemple, Google et Facebook cherchent constamment à découvrir de nouvelles informations sur nous et d'établir un profil aussi précis que possible. À partir de mon profil, il est possible de prédire notre état d'esprit, notre origine ethnique, notre orientation sexuelle, nos opinions politiques et même nos faiblesses. En bref, plus une publicité est ciblée sur votre profil, plus Facebook et Google gagnent de l'argent. Donc, c'est majoritairement ces grands groupes qui sont contre l'anonymat. Ça va être la quête de nos données, nos habitudes et nos consommations. Alors bien évidemment, ces grands groupes vont se défendre en se disant « Bah oui, mais grâce à l'argent récolté, on va pouvoir avoir un accès à Internet au plus grand nombre, avoir des meilleures infrastructures, permettre de financer les créateurs de contenu. » Mais vraiment, il y a quand même quelque chose de louche derrière ça. On va écouter, par exemple, Mark Zuckerberg qui, en 2014, il va faire quelque chose d'assez fou. Il va acheter pour 19 milliards, c'est une somme colossale, pour acheter les systèmes de communication WhatsApp qui, à l'époque, est totalement privé et anonyme et qui permet d'avoir une communication sécurisée.
Clearly, there's one topic that we have to start with. It's been on everybody's lips for the last week or so. You bought WhatsApp for $19 billion. Why did you do it and what does it mean?
The first is, it is a company by itself and what it's going to be worth. And then there's the strategic value and what we can do together. And I actually just think that by itself, it's worth more than $19 billion. I mean, it's hard to exactly make that case today because they have so little revenue compared to that number. But I mean, the reality is there are very few services that reach a billion people in the world. They're all incredibly valuable, much more valuable than that. So I mean, there's
and
a chance.
And they're halfway there already.
I could be wrong. I mean, it's like there is some chance that this is, you know, the one service that gets to a billion people and ends up not being that valuable. I was excited, and Jan was, because of the Internet.org vision and helping to connect everyone in the world, which I think clearly we can do, and we get a lot of leverage from working together on that. The other piece is that by being a part of Facebook, it makes it that they can focus for the next 5 years or so purely on connecting more people. La France a des problèmes longs à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Facebook, Google, Uber règne en maître. Nos enfants seront fichés avant de naître.
Facebook, Google, Uber règnent en maître, nos enfants seront fichés avant de naître. Ben oui, finalement, les grands groupes, ils cherchent quand même à récupérer un maximum de données sur nous. Si WhatsApp est down, c'est le changement des règles. Là où la plus grande messagerie du monde, comme l'a dit Zuckerberg, avec 1 milliard d'utilisateurs, ben maintenant, elle va être occupée par Facebook, qui va chercher cette quête économique, cette cherche de quête d'informations sur nous. Est-ce qu'il y a des solutions pour tout cela ? Si nos auditeurs nous écoutent, bah, y a deux solutions principales qui sont assez connues. Par exemple, on aura la messagerie Signal, qui est un logiciel libre, qui est un logiciel qui se veut un peu libre, et c'est américain. En parallèle de ça, on va avoir une autre messagerie qui est Telegram, qui elle est contre les Américains parce que c'est une messagerie russe et c'est un peu une messagerie rebelle. On vous conseille de les utiliser si vous voulez bien sûr garder votre anonymat et ne pas offrir vos données à Google et Facebook. Mais il reste quand même des bastions de l'anonymat. Par exemple, on a le forum, un des premiers réseaux sociaux qui s'appelle 4chan et qui lui reste totalement anonyme. Et malheureusement ou heureusement, on peut voir un peu tout et n'importe quoi. On vous invite à aller voir. Aussi, il y a un site internet très connu qui s'appelle Wikileaks, qui a fait grand débat. Site internet créé par Julian Assange, où les lanceurs d'alerte vont pouvoir déposer des informations de manière anonyme. Et ça a été notamment à l'origine d'énormément de débats de société, notamment puisque ça a permis de faire éclater des scandales d'État américains. Enfin, beaucoup d'entre nous ne voient pas d'inconvénient à fournir certaines informations à Google et Facebook en échange de l'accès à leur plateforme. Le problème est, le problème est que ces entreprises nous suivent de manière beaucoup plus intrusive que nous le pensons et qu'elles exercent ainsi une surveillance omniprésente sur nos vies numériques. Mais alors, à qui ça profite l'anonymat ? Est-ce que l'anonymat est vraiment utile si on n'a rien à se reprocher ? Mais enfin, est-ce que c'est l'outil qui profite à la cybercriminalité ?
Merci beaucoup, Aymeric, pour ton intervention. Alors, une petite précision juste sur Telegram. Faut faire attention parce que les conversations de groupe ne sont pas chiffrées sur Telegram. Elles le sont sur Signal, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste pour la complétude. On va passer aux questions. Il y a Simon qui nous demande, concernant les réseaux sociaux, est-ce que les grands groupes du numérique comme Facebook et Google peuvent créer des profils sur des gens qui n'utilisent pas leurs services ? Est-ce qu'ils ont des données sur eux ?
Alors, je pense que je n'ai pas forcément l'information, mais il faut comprendre que quand on crée un profil sur une personne, finalement, ça va être quand on récupère un maximum de données. Par exemple, Google, ça va être avec nos moyens de paiement, ils vont récupérer nos numéros de téléphone, ils vont récupérer les sites sur lesquels on accède. Sur Google Maps, ça va être les établissements qu'on visite, etc. Mais je pense qu'une personne qui n'utilise pas un service Google, bah, Google ne va pas pouvoir s'en créer un profil aussi large qu'une personne qui l'utilise. Après, je n'ai pas plus d'informations que cela.
Ouais, ok. Pour compléter, on peut dire qu'avec les systèmes de tracking sur les sites et toute la publicité, parfois Facebook ou Google a récupéré un historique d'utilisation, mais en effet, comme tu me dis, pas autant de données. Hicham demande si cette récupération de données par Facebook, Google et les grands groupes du numérique constitue un réel danger pour les utilisateurs.
Alors là, c'est un débat beaucoup plus large, c'est le débat même principe même de l'anonymat. Est-ce que si j'ai rien à me reprocher, est-ce que c'est vraiment utile de me protéger ? Là, ça va sur un débat beaucoup plus grand et même on vous invite à écouter la suite de l'émission. Mais y répondre concrètement à une phrase, c'est pas possible. C'est une question de principe personnel. Est-ce qu'on va pouvoir préférer des solutions un peu plus libres comme écouter et suivre ce que fait Picassoft ou on va plutôt rester à utiliser Facebook, utiliser Instagram, utiliser Google parce que c'est une question de facilité, parce que c'est hyper bien fait, c'est très facile d'utilité par exemple.
Ouais, c'est des questions très stimulantes, comme tu dis, c'est difficile d'y répondre en une phrase. Stéphane demande, les grands groupes ils veulent pas sortir de l'anonymat, tu l'as bien expliqué, notamment pour des raisons économiques, mais pourquoi, à ton avis, est-ce que les États les laissent faire ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont impuissants ou parce qu'ils sont en connivence avec eux ?
C'est assez compliqué, il faut comprendre qu'il y a les États-Unis, les grands groupes américains travaillent en collaboration avec les États-Unis. Par exemple, la NSA travaille très directement avec Google et Facebook et des GAFAM, par exemple Google, Microsoft, etc. Mais après, c'est quelque chose que l'Europe a du mal à gérer, par exemple. Ces grands groupes américains sont aussi présents à l'international, mais par exemple, les États-Unis ont certes un peu un pouvoir, l'Europe a essayé d'en garder un peu, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à l'international pour un petit pays de pouvoir accéder à ces données, par exemple.
Ok, et j'ai une dernière question. Tu parlais de sites comme 4chan ou Wikileaks où l'anonymat public est la norme. Et est-ce que ces sites, ils ont quand même l'obligation de répondre aux requêtes judiciaires? Est-ce qu'ils arrivent à contourner la loi? Comment est-ce qu'ils garantissent, par exemple, tu disais 4chan, l'anonymat est vraiment la norme, mais est-ce que c'est un véritable anonymat ou c'est comme l'anonymat des VPN dont Garance parlait, où finalement on peut, si requête judiciaire il y a... obtenir les informations?
Je pense que je n'ai pas forcément la réponse. Est-ce que historiquement il y a déjà eu des requêtes pour retrouver une personne qui aurait fait quelque chose de très mal sur 4chan? J'avoue, je n'ai pas la réponse. Mais par exemple, pour Wikileaks, c'est un système qui est hébergé sur plusieurs c'est hébergé internationalement et c'est à essayer de se protéger des attaques, par exemple, du FBI ou de la CIA contre Wikileaks qui a révélé des scandales d'État américain, qui aura fait une trahison aux pays américains.
Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que pour Wikileaks, comme ils utilisent, beaucoup de gens l'utilisent à travers le réseau Tor, ça garantit quand
exactement,
même
ouais,
certains, au niveau de l'adresse IP, en tout cas, anonymat. Et puis pour 4chan, on sait pas, on laisse les auditeurs et auditrices chercher. Merci beaucoup, Aymeric, pour ton intervention. Et maintenant, on va passer à la troisième intervention. Théo, tu vas nous parler de l'évolution de la cybercriminalité.
Tout à fait. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc la cybercriminalité, d'abord je vais revenir sur l'étymologie. Donc c'est un dérivé de la criminalité, donc l'ensemble des actes criminels, avec le préfixe cyber. Donc cyber, ça vient du grec, ça veut dire art de piloter, gouverner, et globalement dans le sens commun qu'on l'entend aujourd'hui, c'est l'ensemble des activités liées à l'utilisation du cyberespace. Donc on en sort une définition de la cybercriminalité qui serait l'ensemble des infractions pénales qui sont commises dans le cyberespace. De nos jours, le cyberespace, quand on va demander à des gens ce que ça représente pour eux, ils vont répondre Internet. Et quand on va parler de cybercriminalité, on va parler de vol d'informations, de harcèlement, de vengeance personnelle, de détournement d'informations. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que la cybercriminalité a évolué. Donc on va faire un petit saut dans le temps. Il est impossible vraiment de retrouver le premier acte de cybercriminalité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est retrouver la première attaque majeure et l'utiliser comme point de référence pour la suite. Donc la première attaque majeure date du début des années 70, où une personne a inventé ce qu'on appelle la blue box, ou boîte bleue en français, qui lui permettait de passer des appels téléphoniques gratuits en se faisant passer pour un opérateur. Ensuite, au début des années 1980, il y a le premier coupable de cybercriminalité qui a été reconnu coupable, donc de ce qu'on a appelé pour la première fois la cybercriminalité, qui s'appelle Ian Murphy, alias Captain Zap, qui est rentré dans les systèmes du Pentagone et de la Maison Blanche et qui y a laissé son CV. Donc il a d'autres compétences et résultats à son actif, mais c'est le principal. Et donc la première vague de cybercriminalité que le monde a connue, ça a été pendant les années 80, avec notamment la popularisation des mails, donc avec un petit peu les arnaques qu'on peut connaître, par exemple le prince... coincé dans un pays qui a besoin d'argent et bizarrement c'est à nous qui demande. On a aussi une deuxième vague qui cette fois plus dans les années 90 qui a coïncidé avec l'apparition et l'évolution des navigateurs. Donc à l'époque il y avait peu d'options sur le navigateur mais surtout beaucoup d'opportunités et de failles pour les virus et parfois même par les disquettes. En 1994 on a l'apparition du World Wide Web et on a les premiers cas de rançongiciel, aussi appelé ransomware en anglais. Et donc, à partir de cette époque, c'est une cybercriminalité qui s'approche beaucoup de celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en 2021, par exemple, d'après le site Cybermalveillance du gouvernement français, la recherche d'assistance pour les particuliers au niveau des cybercriminalités, ça s'apparente à de l'hameçonnage, environ 30%, le piratage de comptes, 20%, et des faux supports techniques, 15%, tandis que pour les entreprises et les associations, on est sur, pour un quart, c'est du ransomware. Donc on note qu'il y a quand même une certaine évolution de la cybercriminalité dans les pays, qui va déjà augmenter énormément depuis les années 90, tandis que le crime conventionnel, on va dire, lui décroît. Et j'ai trouvé l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France qui notifie que entre les années 2014 et 2018, en France, il y a eu deux fois plus de cyberattaques notifiées et selon McAfee, donc un éditeur de logiciels antivirus, le coût annuel des cyberattaques pour l'économie globale a augmenté de 12 fois en 4 ans. Donc en fait On a l'exemple concret maintenant avec le Covid. On voit que l'avalanche de nouveaux services disponibles sur Internet, donc qui s'adressent à une population mondiale, est de plus en plus disposée à les adopter. C'est ce qui contribue aussi au succès de la cybercriminalité. Et donc, on voit que l'évolution des cybercrimes, il est intrinsèquement lié à l'évolution et aux usages d'Internet. Donc, c'est ce que je disais, l'exemple de la crise Covid en est très représentatif. Et on va écouter une intervention du général Marc Watin-Augouard, qui est général d'armée et fondateur du Forum international de la cybersécurité sur France 24, qui va nous parler un petit peu de la crise Covid.
La crise de la Covid a été exploitée par les prédateurs, les cybercriminels, mais pas simplement les cybercriminels, ça peut être des États qui utilisent le cyberespace comme moyen de pression, de moyen de puissance, moyen d'oppression. Et il me semble qu'il y a un changement dans l'opinion publique, un changement dans la vision de l'État, un changement dans la vision des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont pris conscience de la très grande vulnérabilité de l'espace numérique et de la très grande dépendance qu'ils ont par rapport à cette...
Voilà, donc comme l'a si bien dit le général Watin, suite au confinement de la population, de nombreux services et des activités ont migré sur le net. Cette vague de digitalisation a ouvert de nombreuses opportunités aux cybercriminels, avec toujours plus de supports numériques et digital, ce qui a, par définition, augmenté d'autant plus les dépendances des usagers à l'espace numérique. Donc on note une hausse de la cybercriminalité dans le monde entier. Au début de la pandémie aux États-Unis, on avait 4 fois plus de cyberincidents quotidiens déclarés auprès donc, de l'Internet Crime Complaint Center, IC3. On avait 82% de hausse de notifications de cybercrime en Malaisie, puis environ 12% en Singapour, donc c'est vraiment quelque chose qui est mondialisé, c'est pas juste localisé. Et on remarque en fait qu'au début, donc vers mars-avril 2020, au début de la pandémie, les attaques s'étaient d'abord concentrées sur la Chine, puis le Japon, avant de toucher l'Espagne, les États-Unis et l'Iran. Donc on a un schéma où les cyberattaques ont suivi un petit peu la route du coronavirus, frappant là où l'épidémie se faisait plus forte. Donc on voit bien que la cybercriminalité évolue et c'est utiliser aussi utiliser le contexte, les conjectures mondiales. Donc au final, on voit qu'il n'y a pas forcément une révolution dans les moyens de faire des cybercriminels, mais plutôt des adaptations, surtout au niveau des différents types de cybercrimes. Donc pour quelques chiffres, sur la période mars-avril 2020, on a 1700 noms de domaines qui étaient liés au coronavirus qui étaient créés quotidiennement. Plus de 86 000 sites qui ont été identifiés comme dangereux, donc soit des malwares, soit du phishing, sur 1,2 million de noms de domaines liés au Covid. Et aussi, on a donc après derrière tout ce qui va être arnaque et contrefaçon au niveau des médicaments, des vaccins, des masques. Et donc, on a eu aussi beaucoup de désinformation. Donc, il y a un terme anglais qui a été créé pour désigner le phénomène qui s'appelle l'infodémique. Et en fait, ça amène à se poser comme question comment nous, en tant qu'usagers, on peut se protéger. Et justement, si est-ce que l'État doit faire quelque chose? Est-ce qu'on doit se tourner vers certaines institutions? On va réécouter encore une fois le général Watin, qui continue de s'exprimer sur la cybercriminalité.
Attention, il faut que l'État mette en place une stratégie forte, puissante, pour pouvoir garantir la sécurité des personnes physiques, des personnes morales. Que serait l'État si demain les entreprises vont toutes se plaindre dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie, les entreprises, les particuliers, en disant qu'est-ce qu'on fait, et que l'État ne soit pas capable de répondre, la justice, la police, la gendarmerie. Donc vous voyez que l'État a un rôle très important.
Et donc, comme le dit le général Watin, on peut se poser la question de vers qui se tourner pour se protéger? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes ou est-ce qu'on doit attendre justement des institutions peut-être ou de l'État une certaine protection?
Merci beaucoup Théo pour ton intervention. Justement par rapport à ce que tu disais à la fin, imaginons qu'un État autoritaire tout puissant veuille faire cesser la cybercriminalité au sein de ses frontières, donc sur Internet. Est-ce que tu penses qu'il peut y arriver? Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire arrêter les crimes globalement?
Ça va. Donc là, on part du principe que l'anonymat, il est levé ou pas? Ou pas du tout?
Et en tout cas, il peut, il a tous les moyens qu'il veut pour pouvoir le lever.
Ce qu'il pourrait faire, c'est dans un premier temps peut-être lever l'anonymat pour essayer de pour chaque ça serait compliqué, mais pour chaque cyberattaque, essayer de remonter et de sanctionner, de prévenir au maximum pour pouvoir contrôler.
Et ça, tu penses que c'est possible techniquement de lever l'anonymat? par exemple, des systèmes comme Tor dont Garance parlait. Est-ce que justement un État autoritaire, il a les clés pour lever ça?
J'en ai pas trop d'idées. En fait, le problème de la levée de l'anonymat, c'est que si l'anonymat est levé, nous les citoyens d'ailleurs, on doit faire confiance dans ce cas-là à l'État. Mais je pense qu'on peut essayer de prendre l'exemple par exemple de la Chine, où il y a certains sites qui vont être inaccessibles, des réseaux sociaux qui vont être inaccessibles. On va avoir beaucoup de censure. Mais après, j'imagine qu'avec le matériel technique nécessaire, on peut quand même encore échapper tant bien que mal à cette levée de l'anonymat. Mais ça me paraît quand même très compliqué.
Ok, merci beaucoup. Et j'avais une autre question. Est-ce que tu as des exemples récents de cybercriminalité? Enfin, est-ce qu'en dehors de la cybercriminalité pour des buts purement économiques, escroquerie, est-ce que ça a eu des rôles dans la politique ces derniers temps, la géopolitique? Est-ce qu'on a identifié des pays ou des organisations qui sont spécialisées dans des attaques un peu de ce genre, à ta connaissance?
J'ai pas d'idée précise là tout de suite en tête, mais après je pense toujours à... je sais qu'on est dans une phase où, enfin, depuis très longtemps, l'information vaut énormément. Donc il y a beaucoup de gouvernements qui font tout leur possible pour essayer d'avoir des informations sur d'autres gouvernements. Donc j'imagine que ce serait pas idiot de penser qu'il y a beaucoup de cyberattaques entre gouvernements, ne serait-ce que pour les informations.
Ok, ça marche. Merci beaucoup Théo. Et puis on va passer à la dernière intervention de cette session. Lucas, cette fois-ci, tu vas nous parler du dilemme entre anonymat et protection des personnes.
Oui, bonjour Quentin, merci beaucoup. Donc, comme tu l'as bien dit, oui, donc je vais parler du dilemme autour de la cybercriminalité et la protection de l'anonymat. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sociétal qui est particulièrement important dans ces dernières années. On en a tous parlé dans nos passages précédents, mais il y a un nombre croissant d'utilisateurs sur Internet. On a 88% des Français qui ont une connexion Internet. Donc on peut voir, donc avec le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet, que le nombre de comportements criminels dessus, il se multiplie, en profitant en général de failles de sécurité sur des plateformes ou même de la naïveté et du manque de formation des utilisateurs d'Internet. Donc, grâce aux parties prenantes aussi, il est possible de faire un lien donc, entre la possibilité de cacher sa véritable identité sur Internet, donc rester anonyme, et les actes de cybercriminalité. Par exemple, on peut prendre l'exemple de propos racistes, homophobes sur une plateforme de réseau social. Donc, cette personne, en fait, elle va être cachée derrière un pseudo, et donc peut penser qu'elle peut proférer des paroles racistes donc, ou homophobes à des personnes. Donc on peut se poser donc, les questions suivantes. Doit-on abolir l'anonymat sur Internet donc, pour protéger ses utilisateurs? Ou et également, l'anonymat et la protection des données sur Internet sont-ils des droits fondamentaux à protéger à tout prix? Donc ces questions, elles ont été posées à Thomas Huchon. Donc, c'est un journaliste de LCI, ça a été posé en 2018 et voici sa réponse.
Moi ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur Internet comme journaliste et j'ai été pendant très longtemps un partisan de la liberté sur Internet. Je ne le suis plus du tout, je suis pour un contrôle absolument total de ceux qui ont le droit de publier, bien entendu que certains ne pourront pas s'exprimer, tant pis, c'est le prix à payer pour un débat de qualité. Tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans votre studio pour venir s'exprimer, c'est vous qui choisissez. Eh bien je crois que les citoyens aujourd'hui ont aussi le droit de choisir de dire que ceux qui ne veulent pas présenter leur identité n'ont tout simplement pas le droit de s'exprimer.
Voilà, donc la réponse du journaliste, elle est assez radicale. Il dit que l'abolition de l'anonymat, donc c'est la solution pour, je cite, « avoir un débat de qualité ». Donc quand on y pense un peu bêtement, ça pourrait être potentiellement une solution. Par exemple, contre le cyberharcèlement, les propos blessants et injurieux sur les réseaux sociaux en associant en fait n'importe quel post, n'importe quel tweet, donc à une personne physique. Cependant, si on y réfléchit un peu plus, c'est pas forcément la solution la plus efficace contre de nombreux autres types de cybercrimes, donc les exemples que Théo a évoqués. On oublie aussi également vite ce que l'anonymat peut potentiellement permettre. Internet, c'est également en fait une plateforme qui permet à beaucoup de monde de s'exprimer, donc ça va donner des voix à des personnes éloignées et isoler donc des débats publics ou par exemple donner des voix à des personnes oppressées. Je peux prendre l'exemple du printemps arabe, en fait, où les manifestations qui avaient été organisées avaient été organisées donc sur Internet. Donc c'était des voix qu'ils pouvaient pas avoir en fait sur la place publique et ils ont déplacé le débat sur Internet et bon donc ça a donné ce qui est arrivé donc pendant le printemps arabe. On peut également citer l'exemple des lanceurs d'alerte. Donc ça va être des personnes qui appartiennent à une institution ou qui travaillent dans une entreprise qui a commis des crimes. Et ces personnes vont décider de dénoncer leur employeur sur la scène publique. Donc pour ces personnes, l'anonymat, c'est un facteur très important dans leur dénonciation parce qu'il va les protéger contre d'éventuelles représailles. Donc on peut se poser la question, devrait-on plutôt remettre en cause donc, les principes fondamentaux de fonctionnement d'Internet ? Parce qu'en fait, les règles et les principes de fonctionnement qui ont été mis en place au lancement d'Internet, on remarque qu'aujourd'hui, ils ne sont plus trop applicables. Je vais citer en fait Ivan Illich, c'est un philosophe et penseur de l'écologie politique, et c'est une figure importante de la critique de la société industrielle. Et donc, il avait développé le principe de contre-productivité dans l'avancement technologique, et j'ai trouvé qu'il illustrait bien en fait, les tendances qu'on observe aujourd'hui sur Internet. Donc Ivan Illich, il évoque un seuil quantitatif en fait, où les systèmes ils se reproduisent selon leur propre logique, donc indépendamment des acteurs réels qui sont censés servir. Donc on voit que ça donc, illustre bien le développement assez fou d'Internet dans ces dernières années et un peu le manque de... Enfin, plus personne ne peut le contrôler, même si évidemment le but d'Internet dès sa création c'était de pouvoir être contrôlé par personne pour que tout le monde puisse s'exprimer et profiter d'Internet équitablement. Donc, Ivan Illich, il va dire que plus ces systèmes prospèrent, plus ils vont devenir contre-productifs. On peut voir ça en fait pour Internet. En fait, ça a pris tellement une proportion qu'il est aujourd'hui impossible à une éventuelle institution qui serait chargée éventuellement donc, de contrôler l'identité des utilisateurs afin de réguler le contenu sur toutes les plateformes qui sont disponibles dans le monde. Donc en fait, ça revient un peu à la question qui avait été posée à Théo. Comment une institution, un État ou même en fait une institution internationale pourrait contrôler Internet et essayer de lever l'anonymat. Donc moi, une des solutions intéressantes que j'ai trouvées encore en lien avec Ivan Illich, c'est en fait l'outil qu'il a développé qui s'appelle un outil convivial. En fait, un outil convivial, ça va être, il a trois facteurs. Le premier, donc, ça va être qu'il ne crée chez l'usager aucune dépendance à son égard. Le deuxième, c'est qu'il peut être utilisé, produit et détruit simplement, donc avec un minimum de technique. Et le troisième, ça va être, il demeure sous le contrôle de celui qui l'utilise. Donc on peut voir que appliquer ces règles aujourd'hui à Internet, ça paraîtrait impossible. Et on ne sait pas évidemment si c'est une solution viable et est-ce qu'il existe une solution viable pour donner le contrôle en fait aux utilisateurs de leurs propres données. Donc ça paraît impossible. Par exemple, on voit aujourd'hui les services proposés par les GAFAM. Donc on peut prendre l'exemple de Google, Facebook, YouTube, qui ont en fait une mainmise de plus en plus grande sur les données et les plateformes, donc toutes les données qui traversent en fait et qui donc on en a parlé avant, vous montez un profil de chacun de ces utilisateurs. Mais en fait le débat il est tellement vital, il est tellement critique que on est obligé de se pencher sur le problème vu qu'il est les effets qu'il produit. Donc il est critique je pense donc pour les utilisateurs d'Internet de se former et de s'informer donc sur les différentes techniques qui sont utilisées. Comment les éviter, comment le mieux gérer ces données et comment elles sont stockées. S'informer sur les alternatives aussi donc, aux plateformes proposées par les grandes corporations. Par exemple, on peut évoquer l'exemple dans l'UVWE1, on ne va pas utiliser pour communiquer Messenger, WhatsApp, etc. On va utiliser une plateforme Mattermost qui est open source et qui est hébergée, si je me trompe, pas loin de chez nous, à Compiègne. Donc on a, en fait, en pensant ça, donc on a quand même un peu plus de contrôle, en fait, parce que c'est pas géré par des grandes corporations qui, évidemment, quand on y pense, n'ont vraiment pas le même agenda que des personnes comme nous. Donc voilà. Merci.
Merci beaucoup, Lucas, pour ton intervention. Je sais pas si je rends, si je suis fidèle à ce que tu penses, mais si je comprends bien, à la fin, tu nous dis n'hésite pas à me reprendre, mais que finalement la question anonymat ou non, elle ne serait pas forcément bien posée dans le cadre des réseaux sociaux et que c'est plutôt la taille gigantesque et la concentration des systèmes comme les gros réseaux sociaux qui pose problème, le fait que la modération, la vérification justement de qui est hors de contrôle, qui dépasse les utilisateurs et utilisatrices, et que une des pistes pour régler certains problèmes de cybercriminalité, ce serait d'avoir des plateformes plus petites, plus sous le contrôle des utilisateurs et qui pourraient choisir aussi où aller. Ou est-ce que c'est pas du tout ce que tu as voulu dire?
C'est proche de ce que je voulais dire. Je suis d'accord. C'est vrai que, comme je disais, donc, on utilise maintenant des plateformes avec YouTube, Facebook, qui ont pris des proportions tellement gigantesques, avec des entreprises qui sont évaluées à des milliards de dollars et qui engrangent des milliards de dollars chaque année, c'est un peu contre-productif pour nous. Ce qu'on recherche, en fonction de ce qu'on recherche. Si, évidemment, on s'en fiche de où vont nos données, etc., on s'en fiche que notre profil soit créé et partagé à travers les entreprises, évidemment, ça ne nous dérange pas. Mais si on pense que, évidemment, c'est un peu une atteinte à la liberté, il y a les alternatives possibles. Donc, comme j'ai cité, des plateformes sur une plus petite échelle qui, on espère, ne partagent pas nos données et les protègent au moins un minimum.
Et alors, je me posais une autre question, en fait, un peu en miroir de l'anonymat au niveau de la cybercriminalité. On peut penser à l'usurpation d'identité qui pose des questions qui sont peut-être similaires. Est-ce que vous avez des pistes pour éviter les crimes qui sont liés? Est-ce que vous pensez que c'est la même question de dire est-ce qu'il faut contrôler l'anonymat ou est-ce qu'il faut une autorité qui certifie telle ou telle personne? Enfin, on pense par exemple aux récents exemples avec Twitter et les profils vérifiés.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, il faut savoir aussi que souvent, les problèmes d'usurpation d'identité, ça vient aussi d'un problème de l'utilisateur qui a, malheureusement, des fois, c'est les données qui sont hackées sur les serveurs de la plateforme. Évidemment, là, ce n'est pas la faute de l'utilisateur, mais des fois, le hacker va trouver les informations quelque part sans forcément avoir besoin de hacker. Donc, je pense aussi, du coup, la protection de l'anonymat et donc des données utilisateurs, et aussi le combat contre la cybercriminalité, ça va passer par une meilleure formation, comme j'ai dit avant, donc des gens, parce qu'il y a évidemment la plupart des gens qui utilisent Internet sont pas formés sur comment ça marche, comment bien se protéger, comment bien en fait naviguer sur Internet. Donc je pense que ça vient de là. Et évidemment, du coup, le débat autour de comment empêcher l'anonymat combattre la cybercriminalité et protéger l'anonymat des gens sur une grande échelle. Et donc, une échelle nationale, voire internationale, c'est très très compliqué. Et évidemment, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, peut-être dans quelques années.
Merci beaucoup, Lucas. Et puis peut-être une dernière question de Augustin qui s'adresse au groupe. N'hésitez pas à dire si vous voulez prendre la parole. Du coup, en ayant travaillé sur ce sujet pendant tout le semestre, vous avez évoqué cette tension entre la nécessité de garder l'anonymat sur Internet tout en essayant de protéger les utilisateurs contre des menaces anonymes et contre le cyberharcèlement. Alors, question à 100 balles, mais est-ce que, à votre avis, il faut réguler l'anonymat et dans quelle mesure?
Question à 1000 euros, même, je dirais. Moi, je vais répondre sur un truc un peu personnel. C'est personnellement, plus on se renseigne, plus on écoute, plus on lit des articles, plus on se dit qu'il faudrait se protéger un maximum. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis complètement vendu à Google et Facebook. J'utilise Instagram tous les jours, j'utilise Google Maps parce que c'est le meilleur truc du monde. Et en fait, je me rends compte qu'avoir levé l'anonymat, ça a permis de créer des services qui sont tellement puissants. Et donc, c'est une réponse à double tranchant. Je me dirais, éthiquement, il serait super cool que j'utilise plus du tout les grands groupes, que j'ai pas forcément d'activité illégale, mais que j'aimerais bien ne pas être sous l'œil des États-Unis, j'aimerais pas tout ça, mais... À l'heure d'aujourd'hui, je suis totalement visible. Et est-ce que ça change mon quotidien? Je ne sais pas. Est-ce que dans mon groupe, vous aussi, vous êtes totalement vendu aux géants, aux États?
Oui, c'est vrai que moi, je suis bien d'accord avec Aymeric. Pareil, j'utilise toutes les mêmes plateformes. Après, du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ce serait bien de pouvoir choisir les données qu'on envoie. J'aimerais bien pouvoir utiliser Instagram, Facebook et potentiellement donner les... leur transmettre les données qui m'intéressent pas, mais il y a des trucs évidemment que on a rien à cacher en soi, on fait pas d'activité illégale, mais il y a des trucs qu'on aimerait garder pour nous, et évidemment du coup ce serait intéressant de pouvoir trouver une solution pour pouvoir choisir ce qu'on garde pour nous, ce qu'on donne aux entreprises, au public. Théo, tu penses quelque chose?
Ouais, c'est surtout que bah là, je vais parler pour moi aussi, mais en fait, je sais pas du tout dans quelle mesure les informations, enfin, quelles informations ils ont sur moi, genre jusqu'où ils peuvent aller, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils en font après? Je sais même pas exactement jusqu'où vont mes données. Donc c'est aussi un peu ça que.
Ouais, c'est ce qui fait le plus peur,
ouais,
en fait.
Exactement.
D'accord.
Parce que me dire, ok. Tu vends tes données à une plateforme ou un groupe en échange, on va pouvoir te faire un joli récapitulatif de ta balade sur Google Maps. Est-ce que tu as kiffé ce restaurant, machin? Bah, peut-être que certaines personnes vont vouloir, mais que ces personnes-là ont consenti en disant oui, je veux bien que mes données soient utilisées à ça, mais je pense qu'il y a tellement derrière d'autres utilisations, que ce soit commerciales ou même pour eux derrière. Je n'ai pas trop d'idée jusqu'où ça peut aller, mais.
C'est vrai que l'anonymat, tous ces gros services Google, etc., ça reste très pratique, très facile d'utilisation, et c'est difficile de se tourner vers des moyens un peu moins simples pour être anonyme. Mais je pense que l'anonymat reste quand même très important, ou en tout cas être au moins conscient qu'il y a des possibilités d'être anonyme, notamment si tu parlais de la Chine tout à l'heure, Théo, si... Enfin, du jour au lendemain, ces grosses entreprises ou des gouvernements réussissent à utiliser nos données de manière nocive. Il faut être capable de se protéger, être capable de changer de bord et de ne plus les utiliser, avoir les moyens techniques et les connaissances pour pouvoir s'en protéger. Donc je pense que ça reste important d'au moins être informé, et si on utilise ces grosses entreprises, d'être complètement conscient de ce qu'on risque et de pourquoi est-ce qu'on décide de les utiliser ou pas.
Ben merci beaucoup à tous les quatre pour ces réponses très stimulantes et très intéressantes. J'espère que ça fera poser des questions intéressantes aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Justement, vous concernant, eh bien vous pouvez réécouter les interventions de toutes les étudiants et étudiantes de WE1 en podcast sur graphite.net, puis dans quelques jours, selon la charge de travail de Stéphane, sur aperi.tube. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce qu'on apprend en WE1, eh bien vous pouvez faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. On va enchaîner dans 10 minutes avec une autre émission qui parle un petit peu de low-tech et de web. Si ça vous paraît mystérieux, eh bien restez écoutés. Merci encore à tous les quatre pour votre travail, et puis merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À tout à l'heure.
Merci.
Merci.